Attention, 30 secondes avant départ. Vous n'oublierez pas, bien sûr, de diffuser du sourire.
La chronique de Gilles Labouroir. Le sport entre histoire et société.
Cette semaine, les chroniques de Gilles s'intéressent à l'histoire du Paris Saint-Germain. Partie 2, les années 1978 à 1991. Il s'agit de l'ère Borély des premiers trophées majeurs et de la découverte de l'Europe. Francis Borély, vice-président du club et dirigeant depuis 1973 auprès de Daniel Echter, qui est devenu interdit de gestion en 1978, prend la présidence du PSG le 9 janvier 1978 pour 13 saisons et demie. Sous sa conduite, le Paris Saint-Germain remporte ses premiers trophées majeurs, deux Coupes de France en 1982 et 1983. La première en 1982, après une finale épique disputée face à Saint-Étienne, alors emmené par Michel Platini, qui joue là son dernier match pour un club français. Le PSG l'emporte 6-5 au tir au but, après un match nul de buts partout, Nabatinghe Toko et Dominique Rocheteau inscrivant les buts parisiens, Platini les deux buts pour les Verts de Saint-Étienne. En 1983, Paris conserve la Coupe de France en l'emportant face au nouveau champion de France, Nantes, victoire 3-2. Le club de la capitale vit sa première épopée européenne en 1982-1983, qui se finit en quart de finale contre l'équipe belge de Waterschaie. Ce PSG Waterschaie en Coupe des Coupes est considéré comme le premier grand rendez-vous européen du PSG. Le PSG, vainqueur 2-0 à l'aller à domicile, part favori pour la qualification. C'est en effet lors de cette confrontation contre le vainqueur de la Coupe de Belgique que le record d'affluence au Parc des Princes reste le plus élevé, avec 50 000 spectateurs. Mais lors du match retour, les Belges gagnent 3-0 après prolongation et se qualifient. La saison suivante, le PSG se qualifie une nouvelle fois pour la Coupe des Coupes et se fait encore éliminer de justesse, cette fois-ci en huitième de finale par la Juventus de Turin de Platini, 2-2 à domicile et 0-0 à l'extérieur. Lors de la saison 1984-1985, le PSG vit une saison moyenne, avec une modeste 13e place en championnat, une finale de Coupe de France perdue contre l'AS Monaco et une élimination au deuxième tour de la Coupe UEFA contre les modestes Hongrois de Vidéotone. Gérard Houllier remplace alors l'entraîneur Georges Perroche. Le PSG accède au titre de champion de France lors de la saison 1985-1986 pour la première fois de son histoire. La formation de la capitale s'appuie sur une colonne vertébrale constituée par le gardien Joël Batz, le milieu de terrain défensif Luis Fernandez, devenu capitaine à la place de Dominique Batnay, le meneur de jeu yougoslave Safet Susić et l'attaquant Dominique Rocheteau. L'équipe reste invaincue pendant 27 journées et s'impose finalement avec 3 points d'avance sur son dauphin, le FC Nantes. Les deux saisons suivantes, marquées par le départ de cadres historiques comme Luis Fernandez en 1986, puis Dominique Rocheteau en 1987, sont plus délicates. 7e, puis 15e place en championnat, avec une élimination en Coupe des clubs champions dès le premier tour de la compétition contre le FC Vitovice, modeste club tchécoslovaque. Le PSG participait à cette compétition pour la première fois de son histoire. En 1988, Tomislav Ivić devient entraîneur du PSG. Il y obtient d'abord de bons résultats, le club parisien terminant à la deuxième place du championnat, à 3 points de l'Olympique de Marseille. La saison suivante est plus décevante. Les Parisiens sont éliminés rapidement en Coupe UEFA par la Juventus de Turin et avec 14 défaites, termine à la 5e place de la Division 1. Résistant à l'assaut du Matras, qui, 5 ans durant, tentant en vain de ravir au PSG sa position de numéro 1 dans la capitale, le président Borély et son système de gestion à l'ancienne se trouvent à bout de souffle à l'attaque des années 1990. Francis Borély est né le 8 avril 1932 à Sousse, en Tunisie. C'est le fils d'un gardien de phare muté en Tunisie. Francis Borrelli devient alors le joueur vedette du club de football de la Patriote de Sousse. Cadet, il joue surclassé en junior, puis junior, il joue surclassé en senior. Francis Borrelli effectue son service militaire en région parisienne et joue avec l'équipe réserve du Restart. Démobilisé, il décide de rester à Paris, où il fait toutes sortes de petits métiers. Il se décourage et rentre en Tunisie au moment où la guerre d'Algérie éclate. Il joue alors pour la Patriote de Sousse. Une fois démobilisé, il revient intendant à la Compagnie des pétroles de Tunisie, tout en poursuivant sa carrière sportive pour la Patriote. Francis Borrelli revient alors en France métropolitaine et décroche un contrat avec l'équipe réserve de l'AS Cannes. Conscient qu'il ne sera jamais un très grand joueur, il préfère quitter le club et rejoindre Paris où il fait une fois encore de petits métiers. Dans la capitale, il rencontre Henri Sidelio qui l'introduit dans le monde de l'édition. Borrelli monte sa propre maison d'édition spécialisée dans les plaquettes et les annuaires. Il s'appuie sur sa faconde naturelle pour faire prospérer son entreprise et évoluer sa vie professionnelle. Il rejoint le Gant des chemises roses, qui comprend le couturier Daniel Echter, ainsi que Jean-Paul Belmondo, Charles Gérard, Charles Talard, Alain Cahizac, ou encore Bernard Brochamp. En juin 1973, ce Gant des chemises roses reprend le club du PSG, qui vient d'être promis en Division 2. Le 6 janvier 1978, à la suite du scandale de la double billetterie du PSG, Daniel Echter est démis de son poste de président par la Fédération française de football et le 9 janvier, Francis Borrelli est élu président par le comité du club. Au cours de ses 13 années à la tête du PSG, le club parisien remporte ses premiers trophées majeurs. Deux Coupes de France 1982-1983 et un titre de champion de France 1986. Durant la seconde moitié des années 1980, Francis Borrelli résiste aux attaques du Matra Racing et de Jean-Luc Lagardère, dont la priorité est de devenir le club leader à Paris. Lagardère jette finalement l'éponge en 1990. Le PSG a certes conservé son leadership dans la capitale, mais pour faire face à la concurrence nationale de clubs comme Marseille ou Bordeaux, le club a un besoin urgent de moyens financiers pour couvrir ses dettes et investir. Francis Borrelli passe ainsi la main à Canal+, en mai 1991. Par la suite, il devient président de l'AS Cannes, où il reste en poste de 1992 à 1996. Francis Borrelli meurt à Verrières-le-Buisson, dans l'Essonne, le 2 octobre 2007, des suites d'une longue maladie. 2 minutes de silence sont observées au Parc des Princes à l'occasion du match PSG-Rennes le 6 octobre 2007. Afin de lui rendre hommage, la tribune présidentielle du Parc des Princes est rebaptisée tribune présidentielle Francis Borrelli à partir de la saison 2008-2009. Après le président Borrelli, intéressons-nous maintenant à Luis Fernandez, le chouchou du Parc des Princes de 1978 à 1986. Luis Miguel Fernandez Toledo, plus simplement appelé Luis Fernandez, est né le 2 octobre 1959 à Tarifa, en Espagne. Il s'installe en France avec sa mère et ses 5 frères et sœurs en 1968, en banlieue lyonnaise à Vénissieux, dans le quartier des Minguettes, une de ces zones à urbaniser en priorité, symbole de la modernité, chargée de résorber la crise du logement qui accompagne les Trente Glorieuses. Dans cette tour de Babel qui reçoit, aux côtés des Espagnols et des Portugais, le flux migratoire croissant de Nord-Africains, Luis Fernandez apprend difficilement le français. Dans ces conditions, au collège, comme nombre d'enfants d'immigrés, il entre en 6e de transition avant d'être orienté rapidement vers une filière technique. Dans le même temps, il commence à jouer au football à l'AS Minguette, puis à l'AS Saint-Priest. Il n'en reste pas moins que par la suite, sa nationalité constitue un obstacle à l'épanouissement professionnel de sa passion. Ainsi, alors qu'il occupe un emploi d'aide électricien dans une chaudronnerie, ses qualités de joueur de football lui permettent d'effectuer un stage dans le club de l'AS Nancy-Lorraine. En dépit de la bonne impression laissée aux dirigeants lorrains, le président Claude Cuny lui indique qu'il ne peut l'intégrer à son effectif car il est de nationalité étrangère. Il fera un autre stage dans un club professionnel, au Paris Saint-Germain, le club de la capitale. Cette fois-ci, il sera conservé par les dirigeants parisiens et signe ainsi un contrat de stagiaire en 1978 et non un contrat professionnel, car au même moment, le PSG recrute deux étrangers, le Portugais João Alves et le Brésilien Abel Braga. Il est donc victime du règlement de la Fédération française de football qui n'autorise que deux joueurs étrangers par équipe. La blessure d'une des recrues étrangères lui permet d'être incorporé à l'équipe. Cependant, il décide, afin de lever l'hypothèque que peut représenter sa nationalité pour la suite de sa carrière, de demander la naturalisation qu'il obtient sans difficulté en janvier 1981. Rapidement, il s'affirme comme un solide milieu de terrain défensif. Une condition physique exceptionnelle le rend redoutable dans la récupération du ballon, mais également capable de relances précises. Il paraffe son premier contrat professionnel en 1980, puis remporte ses premiers succès en 1982 et 1983 avec deux Coupes de France consécutives. Au même rythme que le club de la capitale, Luis Fernandez connaît une progression linéaire qui lui permet d'être appelé par l'entraîneur national Michel Hidalgo en équipe de France à la fin de l'année 1982. À seulement 23 ans, il s'impose immédiatement comme un titulaire indiscutable au sein de la formation demi-finaliste de la Coupe du Monde 1982, quelques mois plus tôt. Au milieu de terrain, il remplace Bernard Gengini dans le carré magique, ce milieu de terrain de rêve aux côtés de Jean Tigana, Alain Giresse et Michel Platini. Avec les Bleus, Fernandez remporte l'Euro 1984 en France. Il choisit à l'été 1986 de signer au Racing Club Paris, devenu Matra Racing en 1987, club résidant à Colombes dans les Hauts-de-Seine, au mythique stade Yves du Manoir, qui vient tout juste d'accéder à la première division. Il touche à cette époque l'un des plus gros salaires du football français. Présidé par l'industriel Jean-Luc Lagardère, le club est très ambitieux et dépense beaucoup d'argent pour son recrutement. Outre Fernandez et Maxime Bossis, venu un an plus tôt, Lagardère fait venir à Paris cet été-là Pierre Lidbarski, Thierry Tussaud, l'attaquant uruguayen Enzo Francescoli, rejoint aussi la saison suivante par le gardien Pascal Olmeta, Sonny Siloy, le néerlandais, et l'entraîneur Arthur Georges, le portugais qui vient de gagner la Coupe des clubs champions avec le FC Porto, puis aussi par David Ginola et Bernard Casoni lors de la troisième saison. À l'image du club, malgré la pléiade de stars, le Matra Racing est 13e lors de la saison 1986-1987, 7e lors de la saison 1987-1988 et surtout 17e lors de la saison 1988-1989. Les performances de Luis Fernandez sont plutôt décevantes sous le maillot du Racing. Il connaîtra une grosse blessure au genou qui l'empêchera de jouer pendant plusieurs mois et son équipe craint à une fin de carrière prématurée. Il se dirige alors de plus en plus vers une carrière d'entraîneur.
C'était la chronique de Gilles Labouroir, à retrouver en podcast sur le site d'Esprit Occitanie.